Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher host.
Salut Guillaume, joli jersey.
Merci beaucoup, oui, S. Roma, c'est la famille, hein, vous le savez. Alors,
Francesco Totti, oui.
Exactement. Quelle belle époque! Ça, c'est notre enfance avec Rust. Enfin, bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Francesco Totti. On est là pour parler de Jolly Bones Jones et aussi de Paddy, de Buddy Pimblett, ou, comme on a pu échanger par message avec Rust, en étant un peu taquin, Paddy de Fatty Pimblett, qui, bon, se laisse un petit peu aller ces derniers temps. Donc, on va voir tout ça. Donc, Paddy Pimblett, ça va être un petit peu la touche petit peu plus humoristique hein, de cette actu en sueur qui, vous savez, a lieu tous les matins sur Twitch à 9h. C'est pour ça qu'exceptionnellement aujourd'hui, on a rendez-vous à 17h49 et ensuite c'est sur YouTube, donc n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément.
Petit dab.
Et puis à 18h, compte du père Rusty dédié à Nick Diaz. Bon, alors Rust, on lance le générique ou pas?
Bah, je crois bien, un peu mon neveu.
Allez, let's go. Alors donc, John Jones, son nouveau conseiller Richard Schaeffer, qui va lancer une nouvelle organisation en boxe anglaise, Probellum, c'est l'ancien CEO, donc PDG de Golden Boy Promotion. Et donc là, il a évoqué au micro d'Al Helwani dans l'émission The MMA Hour, l'état de santé de John Jones et comment ça devait se passer pour la suite. Donc là, John Jones est actuellement à 118 kilos, il vise les 125 kilos, et surtout, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'il a expliqué, Richard Schaeffer, que John Jones... D'abord, il discutait pour un retour en novembre-décembre, mais non, John Jones a dit non, on prend le temps. Et là, maintenant, c'est plutôt pour l'été 2022 que John Jones souhaite revenir, donc face au vainqueur de Cyril Gann contre Francis Ngannou. Et pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, en vrai, ouais, c'est une bonne nouvelle parce que, ben, il prend le temps de faire les choses bien, quoi. Et je sais que là, du coup, il y a peut-être des gens qui diront, bah, peut-être qu'il prend un peu trop le temps de faire les choses bien, mais. Honnêtement, moi, ça me dérange pas, comme il a déjà tout prouvé dans sa catégorie. Donc, entre guillemets, là, c'est pour moi, à partir de maintenant, comme c'est que du bonus, ben, qu'ils prennent le temps, ça me va encore mieux, quoi. Parce que là, comme on le voit, il est en train de vraiment devenir un heavyweight. C'est pas comme Adesanya qui fait un one-off contre Blachowicz, mais en restant juste à son poids naturel, sans avoir fait de réelle prise de masse, ou comme Max Holloway lorsqu'il avait affronté Dustin Poirier. Là, on a vraiment quelqu'un qui fait la transformation, mais il fait tapis, en fait. Là, il y va complètement à fond. Il est à, bah, du coup, c'est l'objectif 125 kilos pour cutter à 120. C'est énorme, hein. Même pour un heavyweight, c'est gros. C'est-à-dire que c'est probablement de l'ordre de ce que font les Volkov, de ce que font les Derrick Lewis. C'est même pas de l'ordre d'eux. C'est ce qu'ils font eux. Et c'est comme ça que veut arriver John Jones. Donc, c'est génial parce que ça veut dire qu'il prend le temps, un, de faire une vraie prise de masse, mais pour changer radicalement son corps. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il prend donc le temps de s'y habituer en même temps, en fait. C'est-à-dire que là, toutes les séances il fait ça progressivement, et toutes les séances de PAO, tous les rounds où il va rouler en grappling, toutes les sessions de lutte, ben là, il est en train vraiment de petit à petit, genre de façon incrémentale, habituer, j'imagine, parfaitement son corps à ce qui est une énorme transformation physique. Donc honnêtement, c'est tout bénef. Hein. Enfin, pour les fans, c'est tout bénef, parce qu'avec John Jones, on n'est pas un mois près. Son âge n'est plus un problème, puisqu'on parle donc de poids lourds, pour lesquels jusqu'à 40 piges, grosso modo, tu peux être efficient. Mm-hmm. Donc non, c'est trop cool, quoi, génial. Hein.
Je partage
What you
entièrement.
think, fam?
Je partage entièrement ton avis, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Comme moi, cela dit, c'est all-in, et là, clairement, en voulant être à 125 kilos, il n'y aura pas de retour possible, à mon sens, à 34 ans chez les light heavyweight, on est d'accord?
Non. Non, non, bah non. Là, pour les light heavyweight, en partant de 125K, va falloir se couper une jambe, quoi.
Et donc pour John Jones, ouais, je trouve aussi que c'est très rassurant, parce que ce soit Cyril Gane ou Francis, ça va être des challenges assez imposants, même si, tu vois, je pense que là, le fait qu'il veuille être à 125 kilos, ça montre surtout qu'il se prépare à un combat contre Francis plus que contre Cyril Gane. Je pense, c'est peut-être là où je me dis, il y a peut-être éventuellement un risque pour John Jones.
Bah, c'est là où ça, on rentre dans vraiment la sphère du fascinant, c'est que bah, c'est ça y est, comment va se déplacer John Jones une fois qu'il aura atteint en gros sa forme Super Saiyan 3 quoi, qu'il aura... enfin, faut qu'on change de référence d'ailleurs, parce que DBZ, en fait, je pense que pas mal de gens c'est plus trop ça, mais il entre vraiment dans sa forme finale. Donc c'est, on a de temps en temps des vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit donner des coups de pied au PAO, on le voit bouger un peu, on le voit courir. Bon, on peut pas vraiment se fier à ça, donc ce sera vraiment très intéressant de voir s'il garde son agilité, parce qu'il était quand même très agile et très athlétique en light heavyweight. Ben, ce sera très intéressant de voir jusqu'à quel point il peut conserver ça en heavyweight. Donc, s'il arrive à conserver cette agilité, à conserver ce mouvement, ben contre Cyril Gane, ça peut le faire, quoi. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand il a commencé sa transformation, il pensait surtout à Francis, en fait. Donc, je sais pas comment il voit les choses maintenant, parce que je pense que il est quand même en train de se dire, à mon avis, qu'il y a une chance, et pas négligeable, que ce soit Cyril qui devienne le champion Undisputed. Donc, je sais pas comment il voit les choses, mais ouais, tout dépendra de la faculté de mouvement qu'il garde, quoi, qu'il conserve.
Et on nous pose déjà des questions dans le chat par rapport à John Jones, c'est le fait qu'il veut être aussi lourd. Il l'avait dit déjà lors de sa montée, en entamant le processus de montée, que forcément, chez les lourds, il allait revenir aux bases, et donc revenir aux bases, ça voulait dire revenir à la lutte. Et vous l'avez vu, lors de la rencontre entre Stipe Miocic et Francis Ngannou, ça s'est assez mal passé pour Stipe Miocic, notamment parce qu'il avait fait le choix, par rapport au premier combat, d'être beaucoup plus léger. Il était à 106 kilos face à Francis, et donc forcément, quand vous voulez amener un mec qui en pèse 120, et là c'est 120 de muscles pour Francis, c'est beaucoup plus compliqué quand vous lui rendez 15 kilos. Et là, John Jones, il a dit justement qu'au niveau de sa prise de masse, ça allait notamment être au niveau des jambes que le changement allait être plus fulgurant, parce que les gens allaient vraiment se rendre compte que là, ces chicken legs, bah, ça n'existait plus. Donc je pense vraiment que pour John Jones, il y a cette volonté-là aussi. On l'avait vu contre Dominic Reyes, où il y avait un peu plus de difficulté à amener ses adversaires au sol. Là, je pense aussi, et il l'a dit aussi en interview, que chez Lourdes, bah, forcément, le pouvoir du chaos joue énormément. Face à Francis aussi, il a dit, après un premier round où j'ai un risque de me faire mettre KO, ensuite, c'est moi qui vais gagner. Je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi de réduire au maximum, tu vois, le champ des possibles en termes de John Jones va se faire mettre KO, et pour ça, bah, faut revenir au grappling, faut revenir à la lutte. Donc c'est pour ça qu'en soi, moi, je trouve que c'est très logique, et là aussi, encore une fois, très rassurant concernant John Jones.
C'est vachement intéressant, parce que effectivement, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'avait dit par exemple aussi un gars comme John Danaher, hein, dans les podcasts de Joe Rogan, et il utilisait l'analogie de, tu sais, les cowboys au Far West qui veulent marquer au fer rouge les taureaux. Comment est-ce qu'ils les mettent au sol? En fait, la seule manière, c'est vraiment véritablement de leur couper tout moyen de d'être explosif avec leurs jambes. Et ben, en fait, c'est exactement pareil là pour Francis, c'est-à-dire que ben c'est clair qu'une fois au sol, si tu arrives à l'y mettre, bah là le facteur de danger, il est divisé par 20, quoi. Mais la question, c'est, on sait aussi, et c'est Daniel Cormier qui disait qu'il utilisait moins sa lutte parce que c'était extrêmement taxant au niveau énergétique. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que ben s'il veut mettre l'emphase sur la lutte, John Jones, oui, d'un côté ça se comprend, parce que c'est clair que t'as intérêt d'être sacrément physiquement au point et au poids, si tu veux aller à la grosso modo, même s'il y a énormément de technique, bien sûr, mais si tu veux aller à la confrontation physique, mais genre physique, contre Francis Ngannou, il va falloir être solide, effectivement. Mais quid de, ben, la dépense énergétique que ça va susciter, et le fait que, ben, je sais pas si le premier combat que fera John Jones en heavyweight avec son nouveau corps, qu'il tente, en même temps qu'il ait ce nouveau corps-là, une nouvelle stratégie qu'il n'a pas utilisée depuis des années, ça fait beaucoup en même temps. Ça peut, c'est John Jones, ça peut marcher, évidemment. Mais ça fait beaucoup en même temps, quoi.
Ça fait beaucoup en même temps, mais je pense que le fait qu'il débute en heavyweight à l'été 2022, ça lui laisse tout le temps, tu vois, justement, de s'en... Évidemment, il sera jamais dans les conditions réelles du combat, mais tu vois, il aura vraiment le temps de s'habituer à son poids-là. Parce que là, déjà, je crois que c'était en janvier où il avait expliqué qu'il était à 115 kilos, donc ça fait un petit moment quand même qu'il a une carrure de heavyweight, et là, c'est vraiment pour être un... C'est même plus un heavyweight normal, là, c'est vraiment être parmi les heavyweight plus. Donc c'est pour ça que vraiment, moi, je trouve que c'est d'autant plus rassurant. Certes, d'un point de vue stratégique, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu faire ça, mais au moins, à mon avis, il y aura pas ce côté de certains combattants, j'ai pas exactement d'exemple en tête, là, par exemple, mais tu vois, qui montaient de catégorie et on les sentait pas à l'aise. Là, je pense vraiment qu'il sera en forme par rapport à ce qu'il fait, et puis même Richard Schaeffer, bien sûr, ça reste le conseiller de Jojo, donc forcément il va pas dire le mec prend tout ça à la légère, mais il a osé faire la comparaison John Jones Floyd Mayweather par rapport à l'application qu'avaient ces deux athlètes, parce qu'il était évidemment proche de Floyd Mayweather quand il évoluait au sein de Golden Boy Promotions, et il expliquait que pour lui justement les deux le marquent particulièrement dans le sens par rapport à leur application dans leur discipline et dans leur travail au quotidien, et ça aussi ça me rassure. Ça reste Richard Schaeffer, le conseiller de Jojo, je le rappelle, mais du fait que le mec ne prend pas du tout ça à la légère, et il a aussi expliqué à Richard Schaeffer que non, Jojo, et ça confirme un peu ce que Dana White avait dit lorsqu'il avait évoqué la proposition de Stipe Miocic contre John Jones, et Richard Schaeffer a dit non, John Jones, lui, il est pas intéressé par un super fight, il est pas intéressé par la ceinture intérimaire, non, il veut le titre heavyweight, c'est tout ce qu'il veut. Donc, je pense que quand il va, et puis je pense aussi qu'il sait, John Jones, mieux que personne, qu'il aura pas le droit à une seconde chance, enfin s'il se fait mettre KO par Francis, ou qu'il perd contre Cyril Gane, c'est terminé pour lui.
C'est terminé, tu veux dire comment? Parce que c'est John Jones, il aura toujours des shots, je pense qu'il sera toujours à un combat, d'autant plus en heavyweight du titre, non?
Je le vois pas revenir. Moi, je pense que si, enfin, tu vois, s'il perd, tout s'effondre. C'est un peu à la manière de Khabib Nurmagomedov. Quand t'as un gars qui est invaincu comme ça, ou même Floyd Mayweather, tu vois, quand tout ton marketing, toute ton image, c'est sur le fait que quoi qu'il arrive, peu importe les week-ends de fête que t'aies fait juste avant l'événement, peu importe la difficulté du combat, tu arrives toujours à gagner. Pour moi, vraiment, le jour où tu perds, c'est terminé. Terminé.
Ben du coup, ça, si ça se fait, parce que maintenant en fait on est presque dans l'abstrait, hein, par rapport à John Jones, on sait tellement pas, on sait pas quand, on sait pas. Mais si ça se fait, du coup c'est ce qui rend le truc vraiment 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 intéressant. Après, oui, je suis déjà personnellement, c'est vrai, je suis d'accord. Enfin, en vrai, la seule chose qui m'intéresse avec John Jones maintenant, c'est John Jones versus le tenant de la vraie ceinture. C'est vrai, c'est ne serait-ce que par son palmarès, ne serait-ce que par qui il est. Mais c'est vrai qu'en revanche, je serais très intéressé de savoir comment est-ce qu'il voit les choses en se comparant à Cyril, si jamais Cyril gagne le titre. Parce qu'en vrai, maintenant, on ne sait pas comment ça se passera, et si ça se trouve, Francis mettra KO Cyril, on n'en sait rien. Mais si c'est Cyril qui remporte le titre, arriver aussi lourd et arriver comme ça, ça va dépendre. Et honnêtement, c'est génial, parce que si il a mis tout son camp d'entraînement et qu'il a remis vraiment la marche avant sur la lutte en particulier, c'est peut-être ce qu'on redoutait le plus, tu sais, avec les Curtis Blades et les gars comme ça par rapport à Cyril. En fait, ça va se produire, mais contre John Jones, en fait. Ça se trouve, John Jones va arriver, il va genre tunk. Il va saisir Cyril à un moment donné sur soit un contre avec un bon timing, ou alors il va même faire un... On ne sait pas, mais c'est John Jones, il sera probablement capable. Et si Cyril se retrouve sur son dos, parce qu'on rappelle que Cyril, pour l'instant, il a 0,00 secondes sur son dos, hein, à l'UFC. Si John Jones arrive à mettre Cyril sur son dos et qu'il commence à développer une espèce de petit ground and pound en coude de 123 kilos, parce qu'il aura repris un petit peu de poids ce jour-là... Ça peut être une longue nuit quand même, hein. Donc faut voir, mais ça peut aussi être un John Jones un peu moins mobile, même s'il s'est entraîné pour et qu'il fait les choses bien, et donc qui n'arrive pas à choper un Cyril qui est évasif et virevoltant. Et donc voilà, c'est ce qui est bien, c'est que c'est un podcast de oui, c'est beaucoup de vent parce qu'on sait rien sur rien, mais c'est quand même sacrément intéressant sur ce que ça propose en termes d'hypothèse, quoi.
Oh là 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 là, mais ce qui est... mais le plus dommage quand même, je trouve, dans cette situation-là, c'est qu'on aurait envie que tous les trois s'affrontent. Et malheureusement, je pense qu'on aura un combat qui... Et malheureusement, je pense qu'il y aura un des deux combats qu'on ne verra pas. Parce qu'honnêtement, Jones Gunn ou Jones Ngannou...
Les deux, c'est des match-ups de rêve, en fait. Honnêtement, je suis déjà content si on en a un sur les deux. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Honnêtement, tu sais... Il y avait une période à un moment donné à l'UFC où il y avait même eu un, c'est devenu tellement un running gag qu'on appelait ça le injury bug, l'insecte à blessure. Et en gros, il y a eu une période à l'UFC où tout le monde se blessait tout le temps, en fait. Et ça avait suscité beaucoup de débats sur, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les méthodes d'entraînement? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le sport en lui-même? Parce qu'il y a trop de discipline, que le corps peut pas. Et c'est pour ça, j'oublierai jamais ça. Et ça nous maintient humbles, cette période-là, parce que ça nous a enlevé tellement de combats stylés. Donc, je garde à l'esprit que, personnellement en tout cas, que ça peut très bien se terminer aussi sur une énorme blessure de Jones en camp d'entraînement, un truc, on sait pas, tu vois, on n'en sait rien. Mais, je dis ça, voilà, comme ça on balise tout et on se jinxe pas. Mais, ne serait-ce que si on en a un sur les deux de combat, franchement, ça va être... c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. C'est pour ce genre de choses.
Oh là là, en tout cas là ce qui est sûr c'est que John Jones va être présent à Las Vegas dès ce soir pour être introduit au Hall of Fame avec son combat contre Alexander Gustafsson. J'espère qu'il aura l'occasion de discuter avec l'UFC, de se mettre d'accord, et ça vraiment c'est mon vœu le plus cher, c'est que pour le combat, pour l'unification entre Cyril Gane et Francis, John Jones soit présent dans la salle et qu'ensuite il puisse entrer dans la cage pour lancer les hostilités. Vraiment, j'ai envie de ça, tu vois. Ou au moins, que ce soit vraiment dit clairement par l'UFC, par Dana White, là, ça y est, on s'est mis d'accord. D'ailleurs, Richard Schaeffer a rassuré par rapport à ça, il a dit, quoi qu'il arrive, un accord se fera avec l'UFC. Là, aujourd'hui, apparemment, les divergences se font sur les bonus en pay-per-view. Donc, John Jones ne demande pas une somme fixe jugée astronomique par l'UFC. Et Richard Schaeffer est vraiment confiant, il a dit, on parviendra à un accord pour ce combat-là, parce que, pour lui... Quoi qu'il arrive, ce sera l'un des plus grands de tous les temps à l'UFC. Et c'est vrai qu'en fonction de ce qui se passe, je pense aussi que ça peut être monstrueux. Et franchement, là, voilà. L'UFC, s'il vous plaît, vous avez une occasion en or d'avoir une superstar. Parce que là, le mec qui bat coup sur coup, que ce soit qu'il fasse Cyril Gane, John Jones, ou qu'il fasse...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ngannou, John Jones, ou que ce soit juste John Jones qui revienne et qui batte le vainqueur de Gane Ngannou, bon, là vous avez un gars qui aura le statut champion plus. S'il vous plaît, faites-nous plaisir.
Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que dans cette histoire, quel que soit le scénario, il va y avoir une légende, mais absolue, du sport qui en sortira, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais par rapport à en espérant que John Jones soit dans l'audience sur le combat Gane Ngannou. Moi aussi, et c'est alors j'espère que je vais rien jinxer, et je souhaite que Cyril gagne. Mais on sait que si Cyril gagne et qu'il y a John Jones qui rentre dans la cage, il se passera rien parce que Cyril est entre guillemets, il ne cherchera pas, il fera pas de trash talk, il y aura pas de tentative de mind games ni quoi que ce soit. Tandis que si c'est Francis versus John Jones, on peut avoir un moment, alors même si ça n'était pas arrivé ce combat-là, mais tu sais, un peu à la Brock Lesnar, Daniel Cormier, tu sais. Et rien que pour ça, je serais hypé en vrai. Rien que pour voir un Ngannou un peu vénère qui est en mode « Jones, maintenant tu viens, je te déboîte quand tu veux, là tout de suite, ou dans 2 jours, ou dans 2 mois, t'es mort ». Bon, peut-être pas t'es mort, là c'est peut-être un peu beaucoup, mais tu vois, il y aurait un truc, quoi, qu'il n'y aura peut-être pas avec Cyril, mais bon, ça c'est, on s'en fiche, hein.
Ça dit Cyril, John Jones peut aller au contact, parce qu'on n'est pas à l'abri que John Jones aille au contact de Cyril aussi,
d'autant plus qu'on sait que John Jones est un maître aussi de tout ce qui est mind games, guerre psychologique, donc honnêtement, j'aimerais ça. Je te cache pas que j'aimerais ça. En fait, je vais m'être tout à fait honnête. On adore Cyril. Hein, c'est, de toute façon, ça, c'est plus un secret. mais je souhaite que Francis vraiment mette la pression, vraiment salement en fait. Même physiquement s'il faut en fait.
C'est-à-dire, j'ai trop envie de ça. T'as envie que pour le combat là, ce soit, il y a un peu de côté un peu personnel là, pour l'unification?
Pas personnel, mais tu vois, il y a eu un peu ce côté-là avec Lewis, quand Lewis a poussé Cyril, et même si Cyril s'en fout hein, en
non,
soi...
Non, puis on sentait qu'il n'y avait pas de vrai derrière tout ça, tu vois.
Exactement. Tandis que là, Francis, ben Cyril, même si Cyril, lui, il s'en cogne, il sait que pour Francis, lui, Francis, il s'en cogne pas, en fait. Et c'est pour ça que ce sera pas juste pour le show, comme l'a fait Derek Lewis, en fait. Là, ce sera vraiment, vraiment réel. Et juste d'un point de vue de spectateur, j'ai tellement envie que Francis arrive et mette un front contre front ou une poussette ou n'importe quoi. Mais un truc où Cyril, il puisse pas juste rester là, en fait. Mais ouais, bon, ça, c'est dans nos rêves les plus fous, tu vois.
Oh non, je pense, parce que déjà, mine de rien, le face-off Cyril Gane, Derek Lewis, lors de la pesée, il était pas mal. Là, on peut avoir un vrai truc aussi, hein, parce que, mine de rien, Francis, c'est rare qu'il mette des coups de pression, mais contre Derek Lewis, le combat, là aussi, c'était assez intense. Hein. Donc là, on pourrait avoir quelque chose de pas mal. En tout cas, affaire à suivre. Deuxième sujet, et pas des moindres.
Le coup de pression, moi, dont je me souviens, c'était stylé, parce que c'est pas Francis qui le met.
Ah non.
Alors, il y avait, oh là là, oui, j'avais oublié ça. Et en plus, c'était quoi? Tomorrow, you go to sleep. Genre chuchoté comme ça, tu sais. Mais il y avait aussi moi celui que j'avais trouvé vraiment stylé de Francis, c'était pourtant le mec a disparu, Anthony Hamilton, il s'appelait vraiment une marmule. Hein. Et Anthony Hamilton visiblement n'était pas impressionné par Francis et du coup les deux sont arrivés mais en mode ok. Et il y a eu un front contre front qui m'avait mis, je me souviens à l'époque j'étais en mode ouf, je sais pas trop ce que ça va donner, mais là il se passe un truc pas net quoi. Et donc voilà, c'est. Mais enfin, la raison pour laquelle on parle de tout ça aussi, c'est finalement, ça fait partie du sport et du divertissement. C'est Cyril, on le regardera toujours parce que ce qu'il fait, c'est juste trop beau. C'est trop beau. C'est de l'art. C'est de la science. C'est trop. C'est de la poésie. Mais ce que fait Francis, c'est de la pure violence en fait. Et qu'on l'aime ou non, enfin qu'on le veuille ou non, pardon, ben les deux sont tout aussi attirants en fait pour l'œil et qui est averti. Parce que d'autant plus que Francis est aussi un technicien. Mais avec Francis, tu sais que tu vas assister. Il y a des chances que tu assistes à une exécution et ça rend le truc quand même. Et avec quelqu'un qui a une attitude aussi derrière, qui rend aussi le truc vraiment vraiment croustillant quoi, intéressant. Et ça fait partie du truc aussi. Ça fait aussi partie de ce pourquoi on est passionné par ce sport. C'est aussi par des attitudes comme celle-là, par des comportements qui sont des comportements de comment dire, de personnes qui ont tellement confiance en leur capacité dans un domaine qui est grosso modo le comment dire, le combat à main nue. Enfin, c'est fascinant quoi. Mais bon, parenthèse fermée, pardon.
Oui, merci. Deuxième sujet, et pas des moindres du jour, Paddy Pimblett, donc arrivé dans la forme de sa vie à l'UFC Vegas pour ses débuts à l'UFC. On lui a dédié un podcast parce que franchement, il avait mis le feu à Las Vegas. Et là, Paddy Pimblett, on était choqués. Donc on a un peu essayé de chercher les raisons, mais c'est vrai qu'il fait le yo-yo avec son poids, c'est impressionnant.
Ouais, c'est vrai parce qu'il y a en fait il y a trop de vannes à faire. Et je voulais en faire une sur la miniature, mais on s'est dit non, peut-être pas quand même. Mais il y a tellement de trucs là, t'as envie de dire, je sais pas, genre c'est pas que la terreur des lightweight, mais aussi du rayon pâtisserie. Enfin, on va pas le faire, mais c'est génial parce que tu sais que lui-même s'en fout, donc en fait tu peux y aller au niveau des vannes. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors on a vu un article tout à l'heure, comment dire, bah je te l'avais envoyé, tu sais, sur le fait que Quand il prend du poids comme ça, donc là il le dit, en gros son poids, il peut monter jusqu'à 89 kilos alors qu'il combat en moins de 71, donc il prend 18 kilos entre le moment où il combat et la vie de tous les jours.
Je préviens aussi les gens qui nous écoutent, hein, ce n'est pas 18 kilos de muscle.
Ouais, c'est ça, c'est ça le problème, c'est que il le dit lui-même en fait. Ça n'est pas 18 kilos qu'il prend juste parce que il se déshydrate, genre un Gleison Thibault, tu vois. Il se déshydrate, après il se remet, comment dire, des IV, des intraveineuses de sang pour reprendre. Non, non, il reprend 18 kilos, et il le dit lui-même parce que déjà j'aime bien, genre, prendre 4 desserts d'affilée. C'est les mots de Paddy Pimblett. Hein. Et quatre desserts d'affilée, c'est pas des pimblettes. Vu comme il parle ensuite de son alimentation, c'est pas genre une galette de maïs, un abricot et deux pommes, tu vois. Enfin, c'est un chou, c'est une tartine de Nutella et puis une glace à la vanille, tu vois. Donc en fait, c'est un bon vivant. Il aime visiblement la bouffe, il aime visiblement se faire plaisir en dehors des camps d'entraînement. Mais en fait, bon, s'il s'en sort comme ça, bah, j'ai envie de dire, c'est lui le chef, hein. Enfin, c'est lui qui se connaît. Mais là où ça peut poser problème, c'est que, bah, j'ai envie de dire, là, par exemple, il est à 89 kilos, probablement. Parce que si on en suit son Instagram et que son Instagram colle à ce qui se passe en ce moment, visiblement, ça y est, là, il les a, les 99 kilos. Et en fait, moi, je me dis, à ce poids-là, je vois mal comment est-ce qu'il peut être aussi efficace à l'entraînement, ne serait-ce qu'en termes de préparation physique, de récupération. Quand tu te trimballes un poids qui est un poids vraiment, 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 comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est pas un poids sain, quoi. Donc ça veut dire que quand il fait des sessions de cardio le vendredi ou je sais pas quoi, ben forcément il doit vraiment pas du tout, du tout, du tout être efficace. Et du coup, que ce soit pour les entraînements ou du coup, ben il peut pas y aller à fond, il peut pas récupérer aussi vite. Ben j'ai envie de dire, forcément ça doit impacter aussi la rétention, enfin le développement de skills, le développement de compétences. Tu sais, c'était un petit peu c'est un peu ce que disent tous les gens qui pointent du doigt du coup le dopage. Ils disent, mais le dopage, c'est surtout pour ce qui est de la récupération. Et du coup, parce que comme tu peux travailler plus longtemps et travailler plus, ben en fait tu peux apprendre plus. C'est surtout ça en fait que permet le dopage. Ben là, j'ai envie de dire à l'inverse. Vu que physiquement il est complètement à la rue quand il n'est pas encore en entraînement, je vois pas comment ça peut ne pas impacter sa progression. Parce que donc, il est forcément moins efficace et il peut forcément travailler moins bien. Il peut faire des sessions moins longues, il peut récupérer moins, donc il peut pas faire autant d'entraînement. Et donc, il se développe forcément moins au bout de compte.
C'est
Et
clair.
moi, c'est ça qui me tracasse un peu, en fait. C'est que c'est rigolo, mais au final, si ça impacte ta carrière, bah, je
Oui,
sais
moi, ce
pas,
que
quoi.
j'espère juste, c'est que ça ne cache pas un problème qui soit un petit peu plus grave du côté de Paddy Pimblett, mais visiblement, c'est juste qu'il a l'air d'aimer vraiment se faire plaisir, et que pour lui, c'est là, c'est ce qu'il disait aussi, c'est en gros, il se lâche complètement après ses combats, et ensuite, il entre à nouveau en période hyper sérieuse pour préparer son retour dans la cage. Et moi, ce que j'aimerais, ça me fait vraiment penser à Darren Till, où son coach Colin Errol, Aaron avait aussi évoqué ça, c'est que le problème, c'est que le gars, en dehors des camps d'entraînement, il se lâchait complètement à base de junk food, et c'est ce qui faisait qu'ensuite, il manquait le poids, où il était dans des situations où physiquement, il se compromettait de toute façon, juste avant les combats. Et moi, je trouve ça vraiment dommage quand on a aussi bien pour Darren Till, où on voit, enfin, avec Rust, on l'évoquait, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il ait vraiment mis à profit sa montée en catégorie pour justement avoir une hygiène de vie irréprochable. Et pour Paddy Pimblett, c'est un peu la même. Ce serait dommage, tu vois, de passer à côté d'un véritable talent sportif pour quelqu'un qui aime trop se faire plaisir à côté. Et on sait très bien, même si on n'a jamais été combattant à ce niveau-là, pour être en contact avec eux, que c'est énormément de sacrifices. Vous pouvez voir la dernière interview qu'on a fait avec Morgan Charrière, que clairement, les
Clairement.
gars, bah, à partir de juin, là, ça y est, il n'a plus de vie, il dort, il respire combat H24, il mange combat aussi. Donc tout ça pour un combat qui va se dérouler en octobre, donc vous vous rendez compte du sacrifice. Mais c'est vrai que Morgan, ensuite, il peut se dire, victoire ou défaite, il a vraiment tout donné pour ce combat-là. Paddy Pimblett, là, c'est vrai qu'il est vraiment, même comme il l'exprime sur les réseaux sociaux, en dehors de ses 5 semaines de camp d'entraînement, il profite vraiment de la vie. Et c'est dommage, parce que là, il est à l'UFC, contre Luigi Vendramini, il a quand même une grosse alerte, et ce serait vraiment dommage, tu vois, qu'il soit toujours dans des situations comme ça, parce qu'en plus, on va pas se mentir, pour son corps, c'est très 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 mauvais.
Bah ouais, mais bah oui, c'est. Et je me demande, tu vois, pour Darren Till, si j'ai pas suffisamment de compétences dans le domaine pour vraiment en être sûr. Mais il est très souvent blessé, Darren Till. Et je me demande si ça n'a pas un impact de faire autant le yo-yo, mais de façon avec autant d'amplitude pour ton corps, en fait. Parce que je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'impact sur, mettons, je sais pas, tes joints au niveau des genoux ou, enfin, tu vois, de trucs comme ça. Quand ton corps, genre, de 2 semaines, sur l'autre, il passe de, je sais pas, bah, du coup, 60, bah, maintenant 84 kilos à 95, à 100 kilos. Et comment dire, et en plus, lorsque ça n'est pas fait de façon saine, quoi, je vois pas, instinctivement, j'aurais tendance à dire, ça augmente quand même le facteur de risque de blessure, quoi. Donc, au-delà du fait que, un, ça peut probablement augmenter ce risque-là, et donc là, encore une fois, c'est ta carrière qui en pâtit, parce que tu perds 6 mois par-ci, 4 mois par-là, en plus, tu reviens jamais à 100%, et en plus de ça, du coup, si, donc, pendant les périodes où tu te laisses aller avec junk food, etc., bah, du coup, tu t'entraînes moins bien, tu apprends moins bien, donc, ça fait beaucoup, quand même, de comment est-ce qu'on appelle, de downside, de malus,
ouais.
Ouais, d'inconvénient par rapport au bonus qui est probablement que, ben, du coup, c'est comme ça qu'il se sent bien, il est pas malheureux, au moins, et tout ça. Mais, ouais, il y aura peut-être de la même manière que Morgan qui, parce que maintenant, tu vois, il l'a évoqué dans son interview, il a toujours, enfin, c'est vraiment fascinant parce que Morgan, il a eu vraiment plusieurs parties dans sa carrière. Une au début où il faisait ça un peu à la one again. Après où il est devenu extrêmement professionnel et lui-même allait faire toutes les recherches sur la nutrition, sur l'entraînement, etc. Et maintenant il est en mode full blast où il n'a même plus de vie sociale parce qu'il se couche le plus tôt possible, parce qu'il fait les choses bien, etc. Il est très réglé. Et il y aura peut-être ça pour Paddy Pimblett dans quelques temps. Mais je suis pas persuadé parce que Paddy Pimblett, il me marque pas comme étant quelqu'un de potentiellement aussi réfléchi que Morgan, en fait. Parce que Darren Till, c'est pareil, hein. C'est mon combattant préféré, mais c'est un sauvage, quoi. C'est vraiment, il fait ce qu'il fait, et puis c'est tout.
C'est pour même ça qu'on l'apprécie.
Exactement. Même s'il est brillant en tant que combattant et que du coup, bah, c'est ce qui fait aussi sa personnalité. Bah, c'est probablement aussi ce qui fait qu'il est blessé souvent parce qu'il y va mais comme un berserker à l'entraînement, il mange n'importe quoi en dehors des camps. Donc c'est ce qui fait leur personnalité aussi attachante, c'est qu'ils sont comme ça, mais c'est probablement aussi ce qui fait qu'ils ont énormément de soucis, quoi.
Et oui, mon cher Rust, en tout cas, affaire à suivre. Paddy Pimblett a teasé un retour prochain à l'UFC. Big shout out to my sweet pea, my
bah, j'espère.
Oui, non, mais 100% pour dire un combat à fond de la fin de l'année.
Parce que c'est, imagine, il l'a dit comme ça, bah, oui, on espère bien que tu reviens bientôt.
Big shout out to my sweet pea, my sweet potain. Bingo.
They're here.
Oula, pardon. Juste ici, porté par Big Rusty. Et big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la SUE. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, merci à tous pour votre soutien. See ya, Rusty. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.